L'objet du séminaire, en fait, c'est de nous pousser à réfléchir sur ce que nous vivons, qui sont notamment du point de vue de l'analyse du capitalisme, mais pas seulement. Et à mon sens, nous avons vraiment intérêt à travailler cette question, c'est à travailler la question de la théorie, en fait, et de penser la situation dans laquelle nous sommes, parce que bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait des intellectuels qui dominent la scène comment dire, qui nous aident à penser, qui nous aident à penser ce qu'on vit et ce qu'on vit, à mon sens. C'est aujourd'hui un effondrement global des sociétés capitalistes qui s'accompagne d'un effondrement global de nous en tant que personnes. Certains diraient nos valeurs, etc. Moi, c'est pas trop mon truc, ça. Mais cet effondrement, ce que je veux dire par là, c'est ces effondrements des sociétés capitalistes nous traversent. C'est-à-dire que toute la vision que j'ai, d'ailleurs, ça, c'est une critique que je fais à Anselme, je me place pas en surplomb. Et ça, c'est la psychanalyse qui aide à faire ça. C'est-à-dire que je me considère aussi traversé par cet effondrement de la civilisation, ce que j'appelle la civilisation capitaliste. Voilà. Et donc, on a, à mon sens, intérêt à réfléchir et drôlement, aux situations qui se présentent depuis quelque temps, et encore plus peut-être demain et après-demain. Bien, je close ça, mais encore une fois, je pourrais en dire long sur, par exemple, sur mon cheminement intellectuel. Je pourrais parler assez longuement là-dessus, mais bah, je préfère qu'on plonge directement dans quelque chose qu'on pourrait appeler, à la suite de Conrad, appeler au cœur des ténèbres, c'est-à-dire le nucléaire. Parce que vous verrez, d'une part, j'ai une approche du nucléaire qui se veut, qui, à mon sens, est en rupture avec toutes les approches actuelles du nucléaire qui ont leur part de responsabilité dans l'échec du mouvement. Alors attention, quand je dis ça, moi j'ai un profond respect pour les militants qui se battent, et pour certains depuis des dizaines d'années, ou pour les lanceurs d'alerte. J'ai un profond respect par rapport à ces personnes-là. Je dis simplement qu'il y a problème. Il y a problème, on ne peut pas le nier vis-à-vis de l'échec même du mouvement antinucléaire aujourd'hui. Après, on peut discuter de cet échec, quel type d'échec, etc. Donc, c'est une illustration de ce que je disais aussi auparavant. Il y a vraiment, moi, j'ai vraiment essayé de penser le nucléaire d'une autre manière. Et donc, aujourd'hui, et je pense que je n'aurai pas terminé. L'exposé, il est en quatre parties. Ça suit le manuscrit dont j'ai laissé quelques exemplaires ici, et je peux en laisser d'autres. Donc la première partie, c'est il va s'agir là de la naissance du nucléaire essentiellement aux États-Unis, donc du Manhattan, ce qu'on a appelé le Manhattan Project, hein, c'était le nom de code. La première partie s'intitulera Un projet secret et hors norme. La deuxième partie, Comment et pourquoi fut prise la décision de bombarder? La troisième partie, Les sales bombes, parce que en fait, il y a eu la première explosion d'une bombe sale a été faite aux États-Unis, mais j'y reviendrai là. Ce qu'on appelle une bombe sale, pas la même chose qu'une bombe atomique. Et la quatrième partie, la mise en scène politique du négationnisme nucléaire. Et j'ai une conclusion en une quinzaine de points. Après ces quatre parties-là, qui sont plutôt des parties historiques, on va dire. C'est aussi une démarche, hein, que la démarche volontairement de partir de l'histoire et non pas d'autre chose. Voilà. Donc, alors, je commence. En 1938, l'hypothèse de la fission est déjà connue par les physiciens. Ce que certains en disent, c'est que d'après leurs calculs, ça pourrait libérer une énergie 100 000 fois plus importante que la combustion d'un atome d'hydrogène dans l'oxygène. Donc libérer une énergie jamais vue jusqu'à présent. Je vais vite. Hein. Joliot-Curie, lui, dépose des brevets entre juin 39 et juin 40, et ces brevets, comment dire, ont trait à ce qu'il appelle un nouvel explosif. Ce qui m'amènera à dire plus loin quelque chose que j'introduis quand même maintenant, qui est très très important du point de vue philosophique et politique, c'est que le nucléaire, c'est le fils aîné de la science du XXe siècle, en tant qu'il n'aurait pas pu exister sans la relativité, E égale MC2, et sans la physique des particules. Et en plus de ça, il apportait la science du XXe siècle au zénith de sa puissance. Ça, c'est capital. C'est capital, ça. Il y a d'autres débats derrière ce que je dis. C'est pour ça que je dis que c'est capital, mais je ne veux pas les développer là maintenant. En 1941, aux USA, la recherche a déjà débuté sur la fission de l'atome. Et les contrats de recherche sont multipliés par 50, ça les empire. Sont multipliés par 50 en 1941. Mais il y a un élément décisif, c'est qu'en juillet 1941, les Britanniques, qui sont beaucoup plus avancés que les États-Unis sur la recherche qu'on pourrait dire atomique, envoient le rapport MAUD aux États-Unis. Le rapport MAUD, ça signifie, c'est un acronyme, ça signifie MAUD. Ça signifie « Military Application of Uranium Detonation ». Donc, ils envoient ce rapport en juillet 1941 aux USA. Et là, la recherche qui se déroule essentiellement dans les universités américaines fait un bond. Autre bond, alors, c'est dû à Pearl Harbor et à l'entrée en guerre des États-Unis, évidemment, mais entre le printemps 42 et décembre 43, là, des pas décisifs sont franchis dans la mise en place de la recherche du Manhattan Project, qui n'est pas seulement une recherche. Il y a un séminaire au printemps 42 à Berkeley, avec Vannevar Bush, qui est le grand grand-oncle du Bush fils, qui a été président il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis, et Oppenheimer notamment, et dans lesquels ils discutent de la question, en fait, des différents types de bombes et la manière de séparer les isotopes. Les isotopes de l'uranium et puis le plutonium des éléments irradiés. Je reviendrai. À ce moment-là, ils ne sont pas encore fixés sur ce qu'ils vont faire exactement. Il y a des projets de torpille, il y a des projets. Oppenheimer, qui a toujours été en pointe là, avait avancé l'hypothèse aussi de pouvoir empoisonner l'eau de l'ennemi avec des produits radioactifs. Mais il ajoutait que si ça ne faisait pas au moins 1 million de morts, ça ne valait pas le coup. Ce que je dis là, ce sont des... que vous pouvez retrouver ça dans le manuscrit. Je ne vais pas maintenant rechercher les notes. Hein. Mais tout ce que je dis est parfaitement, comment dire, référencé. Hein. Au départ, j'avais un appareil de notes de 600 notes, et sous la pression des éditeurs, je les ai réduites. Mais, donc ça, c'est au printemps 42, ce séminaire extrêmement important, dans lequel il y a discussion sur est-ce qu'on fait une bombe ou pas une bombe, les différents types de bombes, je vais y revenir aussi, et puis sur comment séparer, par exemple, l'uranium-235 de l'uranium-238, qui va servir à faire une des deux bombes. En septembre, alors là, il y a une chose qui est importante, en septembre, il y a la nomination de Groves, qui est un militaire, qui vient du génie, et qui a été le chef de projet du Pentagone, qui, à ce jour, et à ma connaissance, reste encore le plus grand édifice de bureau du monde. Donc lui, il a montré en quelque sorte son savoir-faire dans le génie, hein, c'était un militaire, et donc c'est à lui que Roosevelt et le staff de Roosevelt confient les rênes du projet Manhattan. Et lui, c'est un chef de projet hors pair, et qui va, contrairement à son prédécesseur qui avait pas du tout fait avancer le projet, lui, il va booster le projet, mais d'une manière incroyable. Tellement incroyable que ça en étonne encore quelques-uns aujourd'hui, y compris à Polytechnique. Il y a à ce moment-là encore une rivalité entre les scientifiques universitaires et les militaires du génie qui tournent en fait à l'avantage des militaires et des industriels. Cette rivalité, c'est pas seulement une rivalité, comment dire, interne dans le projet entre les scientifiques des universités et puis les militaires du génie et les industriels qui sont appelés. C'est aussi une différence de conception. On va le voir aussi. Il y a des conceptions nouvelles qui sont mises en œuvre dans ce projet. Dans la manière même de mener ce projet. Parmi les groupes industriels qui sont employés et qui sont en quelque sorte appelés par Leslie Groves, il y a déjà Monsanto, DuPont de Nemours, Westinghouse, la General Electric, Union Carbide et Kodak. Donc je pense qu'il y a certains noms d'entreprises qui résonnent à vos oreilles. C'est-à-dire qu'elles sont déjà, là dans le projet, Manhattan. Et Groves, en fait, lance des chantiers énormes. Dès sa prise de fonction comme chef du projet en septembre 1942. Et ce projet franchit encore un nouveau cap en décembre 43, lorsque les Britanniques décident d'arrêter de leur côté la recherche sur la bombe atomique et que 50 chercheurs britanniques rejoignent les rangs du Manhattan Project et en général à Los Alamos, parmi lesquels quelques prix Nobel. Donc Chadwick, Niels Bohr, Otto Frisch et Rudolf Peierls. Pas n'importe qui. La crème des physiciens, et pour certains, des physiciens qui ont été obligés de s'exiler sous la poussée du nazisme. Il y a quatre grandes questions qui se posent au début de ce projet. C'est 1. Comment se procurer de l'uranium ? 2. Ils ont une opportunité incroyable. C'est qu'en fait, à Staten Island, à côté de New York, Edgar Sangier, qui est un ex-directeur de la mine, des mines du Congo belge, qui est un Belge lui-même, a stocké 1200 tonnes d'uranium sur cette île, à Staten Island, parce que des physiciens lui avaient dit que, attention, ça pourrait servir pendant la guerre, donc il faudrait faire attention à ce que les Allemands ne puissent pas s'en saisir. Et lui pensait aussi qu'il pourrait en tirer quelques avantages pécuniers, et il a mis en plein dans le mille. Donc il a gagné, et son minerai a été acheté par le projet Manhattan. Le deuxième obstacle à franchir, c'était de construire des usines de séparation des isotopes de l'uranium, ce qui n'avait jamais été fait. Je reviendrai, parce que là, ça n'a pas été simple du tout. Et si j'y reviens par la suite, chaque chose pratiquement que je vais dire a des conséquences à la fois philosophiques et politiques. Le troisième obstacle, c'est qu'il fallait construire les premiers réacteurs pour obtenir le plutonium. Donc là, pour les non-initiés, il y aura deux types de bombes. Les bombes à l'uranium, la bombe à l'uranium, c'est celle qui a explosé Hiroshima, et les bombes au plutonium, c'est celle qui a explosé, par exemple, à Nagasaki. Et ça ne pose pas les mêmes problèmes. Pour l'uranium, il s'agit de séparer les isotopes, 235 de 238, j'y reviendrai. Et pour le plutonium, il s'agit de récupérer les assemblages irradiés, parce que à la suite du fonctionnement des réacteurs, les assemblages iraniens contiennent le plutonium. Mais ce plutonium, il va falloir le séparer chimiquement, pour le séparer des autres composants. Alors là-dessus, il faut dire que sous les gradins du stade de Chicago en décembre 42, il y a la construction sous les gradins du stade comment dire, universitaire de Chicago en décembre 42, Fermi, l'Italien, fait fonctionner le premier réacteur au monde. Quasiment de manière artisanale, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier fonctionnement de réacteur, même s'il est artisanal. Puis ensuite, alors il y a au moins trois noms à retenir parmi les 32 sites dans lesquels le projet va se dérouler. Il y a trois noms à retenir, je vais les dire et je vais les redire. Il y a Oak Ridge. Alors là, il me faudrait le paperboard. Si quelqu'un a la gentillesse de ramener le paperboard qui est dans la cuisine là-bas. Et est-ce qu'il y a des marqueurs quelque part?
Moi, j'en ai.
Okay. Ça peut écrire sur un paperboard. Donc, Oak Ridge. Hanford. et plus connu, Los Alamos. Donc, à Oak Ridge, et là le maître d'œuvre c'est Dupont de Nemours, celui qui a inventé le nylon, les bas nylons, c'est lui. Donc, à Oak Ridge, Dupont va construire le premier réacteur non artisanal qui sera appelé le réacteur, peu importe, X10. Alors que l'ensemble du site de Oak Ridge sera plutôt dédié à la séparation de l'uranium, des isotopes de l'uranium. Donc c'est un peu une exception. Donc dans ce site-là, il y a le réacteur expérimental X10 qui est destiné à voir si on arrive à séparer chimiquement le plutonium. Mais le plus important dans ce site de Oak Ridge, c'est la séparation des isotopes de l'uranium. Le réacteur à Oak Ridge, il est construit en 11 mois. Et donc il est mis en service si je me souviens bien, non je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai plus la date précise en tête, il est construit en 11 mois. Et ce que je dois ajouter, si là il s'agit d'un réacteur expérimental, à Hanford il est prévu de construire 6 réacteurs de type, on va dire, industriel, pour produire de manière industrielle le plutonium à Hanford. Donc, ça, c'est le troisième problème et le troisième obstacle à franchir, qui était donc, et on va le voir maintenant, la séparation des isotopes de l'uranium et l'obtention du plutonium. Le quatrième problème, ce sera la conception du type de bombe et leur faisabilité. J'en dis juste un mot, parce que je ne désire pas... À chaque fois que je plonge dans les questions techniques, c'est parce qu'il y a derrière des questions philosophiques et politiques importantes. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Même en tant qu'ingénieur, je pense que, enfin, c'est justement ce que je reproche, c'est une approche beaucoup trop technophile de ces questions-là. Mais il faut juste savoir que ces types de bombes-là sont deux types de bombes. Le premier type de bombe à l'uranium, l'autre au plutonium, vont poser de tels problèmes que, en fait, tout un certain nombre de technologies vont s'en trouver boostées. Et autour de ça, va se greffer un certain nombre, après-guerre, vont se greffer un certain nombre d'industries. Mais les questions étaient extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Bon, si, par exemple, dans l'uranium, j'en dis juste un mot, si dans l'uranium, la question a été assez relativement vite vu et vite abordé au printemps 42. En fait, il s'agissait, en fait, on a, pour le dire vite, une masse d'uranium fixe et dans une espèce de canon, une autre masse d'uranium qui est mobile. Et cette masse mobile, avec une charge explosive, on va la faire rejoindre la masse d'uranium fissile fixe de façon à atteindre la masse critique, qui permet après que la réaction en chaîne se fasse et se fasse de manière explosive. C'est-à-dire que la réaction en chaîne, c'est-à-dire c'est l'éclatement des noyaux qui projettent des neutrons, ça se fasse à une vitesse exponentielle et au fur et à mesure que les neutrons vont bombarder à leur tour d'autres atomes et faire éclater les atomes, etc., ça se fasse de manière exponentielle. C'est ça qui va faire l'explosion. Pour le plutonium, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le plutonium a une fissilité. Il est beaucoup plus fissile que l'uranium-235, est beaucoup plus rapidement fissile. Donc il n'était pas possible d'envisager une conception qu'on appelle par détonation. Et donc une autre conception qui a engrangé des techniques, et même y compris des techniques de calcul, et c'est là où on va voir d'ailleurs les premiers calculateurs IBM dans ce projet, pour calculer ça, mais aussi d'autres choses. C'est qu'en fait, là, cette conception classique de la détonation pouvait plus fonctionner. Je rentre pas dans les détails, c'est une implosion d'une masse sur elle-même pour la bombe au plutonium. Bon, j'en dis un mot quand même. C'est une implosion d'une sphère creuse sur elle-même qui fait atteindre la masse critique. Mais pour ça, il faut l'entourer de manière circulaire et même sphérique d'un certain nombre d'explosifs, mais ça pose des problèmes d'hydrodynamique des fluides immenses parce qu'il faut que ces explosions se fassent toutes en même temps et que la poussée dans tous les sens se fasse exactement au même endroit et très précisément pour que la sphère creuse s'effondre sur elle-même de manière comment dire, uniforme. Ça va, je peux arrêter là? J'en dis pas plus. Ça vous convient? S'il y a quelque chose qui est obscur, dites-moi, hein. N'hésitez pas, hein. Donc, ça, c'est quatre problèmes qu'il a fallu résoudre. J'en viens à Oak Ridge. En tant que tel, Oak Ridge, c'est un site. Bon, je me souviens plus où c'est parce que bon, la carte des États-Unis, je n'ai jamais été aux États-Unis. En plus, enfin, je m'intéresse pas trop aux États-Unis. Enfin, en tant que pays. Enfin, bref. Bon. Donc, Oak Ridge, c'est un site qui fait 13 km de large, 27 km de long. Et ça fait à peu près 2,5 fois la surface de Paris. Je ne sais pas si vous voyez déjà qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que à Oak Ridge, seront construits les plus grandes, à l'époque, les plus grandes usines existantes au monde seront construites à Oak Ridge, ce qui est un site secret dans lequel il y a 7 portes et n'entre pas qui veut. Tous les services, tous les entrées sont contrôlées. C'est là que les badges vont partir. C'est de là que les badges vont partir pour s'universaliser dans le monde entier. Hein. Et tous les services, les militaires contrôlent ça. C'est les militaires qui contrôlent toutes les entrées, mais tous les services d'espionnage, de contre-espionnage sont présents sur tous les sites. Et j'ajouterai au passage que toutes ces recherches sont cloisonnées. Et à chaque département dans l'organigramme du Manhattan Project, qui au fur et à mesure qu'il avance devient énorme, on pourrait dire chaque cellule du projet est dirigée par un militaire, mais étroitement cloisonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport d'une cellule avec une autre. Sauf une certaine liberté pour les chercheurs de haut niveau qu'a demandé Oppenheimer à Los Alamos. Et si je dis ça, c'est que aussi ça a des conséquences politiques qu'on pourra voir par ailleurs. Donc, Oak Ridge, il y a là, alors on va rentrer là dans les. C'est donc un site qui est dédié à la séparation des isotopes. Et dans un premier temps est construite l'usine de séparation gazeuse. Une usine qui, juste comme ça au passage, fait 190 000 mètres carrés, 600 mètres de long sur 300 mètres de large. Ça vous dit quelque chose. Et 15 000 employés. Cette séparation gazeuse, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils ont connu énormément de difficultés pour la mise au point. C'était la première fois qu'on faisait ça, etc. Mais en fait, l'uranium est transformé en un gaz qui s'appelle l'hexafluorure. Jean-Pierre, s'il te plaît.
UF6, oui.
Ouais. Mais le nom. Et merci. Voilà, hexafluoruranium. J'ai un trou pour l'instant. Comment tu dis, Jean-Pierre, excuse-moi?
Hexafluorure d'uranium.
Oui, c'est ça. Hexafluorure d'uranium, c'est ça. Donc, l'uranium est transformé en gaz et en fait, ça consiste à jouer sur les différences massiques. Tout le monde l'a appris en principe à l'école. Entre l'uranium 235 et l'uranium 238, le plus. Et on essaie de séparer les gaz comme ça. Je ne rentre pas dans les détails. Mais bon. Donc, et c'est un enchaînement de cellules comme ça, des milliers de cellules qui, en jouant sur la différence massique entre le 235 et le 238, essayent de séparer les isotopes comme ça, dans ce gaz. La deuxième. Bon, ça pose des difficultés énormes, 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 énormes. Ça ne fonctionne pas du premier coup et c'est loin s'en faut. Suite à ça, est construite une autre usine avec un autre procédé qui est ce qu'on appelle la séparation électromagnétique. Là aussi, c'est une usine, si vous allez voir le plan, c'est une usine qui fait 3 km de long. 3 000 mètres, 3 km de long. Et dans laquelle il y a jusqu'à 22 000 employés. Là, il s'agit aussi de jouer sur la conception, enfin, pas sur sur la composition atomique de l'uranium 235 et de l'uranium 238 pour en attirer avec des électroaimants. En attirer une partie plus en hauteur, par exemple, que l'autre partie. Donc, ce n'est pas en jouant sur la différence massique, mais c'est en jouant sur le nombre d'électrons, cette séparation électromagnétique. Au passage, comme il manquait de cuivre et d'argent à cette époque, donc en 43-44, le chef du projet a approché la réserve fédérale et il a demandé, vu le manque de cuivre et de fer pour concevoir ces électroaimants, il y avait des milliers de cellules d'électroaimants comme ça, et énormes, qu'on mette à disposition du projet les 14 700 tonnes d'argent de Fort Knox, des réserves fédérales. Et il les a eus. Le dernier lingot d'argent a été rendu à la réserve fédérale en 1970. Donc, vous voyez bien que même, enfin, on y reviendra par rapport aux autres projets, que le projet a été pris très au sérieux par l'administration américaine, états-unienne, pour qu'on lui donne ça. Alors, il y a Oak Ridge est intéressante, pas seulement pour les procédés qui sont mis en œuvre, pas seulement parce que les plus grands bâtiments du monde sont construits à cette époque-là à Oak Ridge, pas seulement pour les moyens dont le projet dispose, mais il ne s'agit pas seulement des 14 700 tonnes d'argent, hein. Il s'agit des projets, des moyens matériels et des moyens financiers mis à sa disposition. Et de tout un ensemble de militaires qui sont détachés du projet, qui sont détachés de leur corps d'origine pour être affectés au projet. Et il y en a un paquet, et des hauts gradés aussi, et surtout des hauts gradés. L'autre aspect intéressant de Oak Ridge, mais on pourrait dire aussi la même chose de Hanford et presque aussi de Los Alamos, mais Los Alamos c'est un peu particulier. L'autre aspect intéressant de Oak Ridge, c'est que en fait, ce site qui est implanté au milieu de nulle part, eh bien, il a un gros problème. C'est que comment faire de toutes ces personnes, que faire de toutes ces personnes qui habitent dans le site? Ça a posé des problèmes. Et je voudrais vous lire à ce sujet un témoignage. Vous pourrez retrouver les références du témoignage dans le manuscrit, ou bien même, enfin oui, dans le manuscrit ou ailleurs. C'est quelqu'un qui travaillait et qui encadrait des travailleurs à Oak Ridge. Et il est interviewé, il s'appelle George Turner. Voilà ce qu'il dit. J'ouvre les guillemets. « Eh bien, ce n'était pas que le travail était difficile. Il était déroutant. Vous voyez, personne ne savait ce qui était fabriqué à Oak Ridge. Pas même moi. Et beaucoup de gens pensaient qu'ils y perdaient leur temps. C'était à moi d'expliquer aux travailleurs mécontents qu'ils faisaient un travail très très important. Quand ils me demandaient en quoi cela consistait, je devais leur dire que c'était un secret. Mais j'ai failli devenir fou moi-même en essayant de comprendre ce qui se passait. Un jour, un homme est venu vers moi et m'a dit « Je pensais avoir à faire un travail en relation avec la guerre. » C'est le cas, ai-je dit. Alors il me regarda incrédule. Eh bien, je suis ici depuis 2 mois maintenant, dit-il, et j'ai regardé attentivement ces 2 cheminées tous les jours. Aucune fumée n'en est jamais sortie. Il y a quelque chose de louche qui se passe ici et je vais m'en aller. Ces cheminées, poursuivit-il, au lieu de rejeter de la fumée, tire de l'air frais pour l'usine. » Fermez les guillemets pour celui qui parle. Il décrivit également comment des wagons complets de marchandises, entre crochets, comment qu'il note, de l'uranium, étaient toujours abandonnés vides. Forcément, ils étaient trop radioactifs pour en faire quelque chose, ça c'est moi qui le dis. Et c'était une chose qui ne lui inspirait guère confiance. Et voici aussi le point de vue d'une autre personne qui travaillait sur le site, Marie-Anne Buffard, une de ces travailleuses compartimentées. Ouvrez les guillemets. « Cela n'avait tout simplement aucun sens. J'ai travaillé dans la lingerie pour la société chimique Monsanto et j'ai compté les uniformes. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Les uniformes étaient d'abord lavés, puis repassés. De nouveaux boutons était cousu avant qu'il m'arrive. Je tendais l'uniforme à un instrument spécial et si j'entendais un bruit de cliquetis, je les renvoyais au début du processus. C'est tout ce que je faisais toute la journée. » Je cite ces exemples pour dire qu'en fait, le problème qui se posait à Oak Ridge, c'était qu'un, la plupart des gens qui y travaillaient étaient enfermés, c'était une ville secrète. Et il y avait même des enfants, il y avait même une piscine découverte. Et il y avait installé sur les hauts de Hanford, par exemple, on le voit très bien dans une photo, des bungalows comme préfabriqués, comme ils sont installés à l'appel dès cette époque-là aux États-Unis, dans les banlieues des villes, ce que nous appelons banlieue. Et le problème, c'était comment faire dans cette ville avec ces milliers de personnes qui travaillaient là et que faire de ces personnes quand elles avaient fini leur journée. Et là, ce qu'on voit à Oak Ridge, aussi bien qu'à Hanford et aussi bien qu'à Los Alamos, c'est que alors il y a des dizaines de ligues de football et d'autres sports qui se mettent en place et des tournois sans arrêt. La télévision n'existe pas encore. Hein. Et il y a une maison centrale qui s'appelle la Big House. Je ne sais plus si c'est à Hanford ou à Oak Ridge, et c'est tout. Donc là, les responsables du projet, en fait, se posaient la question, mais comment distraire tous ces gens de leur tâche ingrate, qui est qui est quelque chose qui ressort du fordo-taylorisme, mais aggravé. C'est-à-dire, non, c'est du fordo-taylorisme, c'est-à-dire que les gens qui bossaient dans ces usines avaient des gestes répétitifs, mais en plus, ils ne savaient même pas pourquoi ils bossaient. Bon, certains, on savait que c'était pour la guerre, etc., mais ils ne savaient pas, en tout cas, ils ne savaient pas que c'était pour la création d'une arme atomique. Même s'il y a eu des fuites, il n'y avait rien de précis à ce sujet-là. On pourrait dire que c'est une façon d'inventer la ville, et d'inventer la vie dans ces nouvelles villes aussi, hein, ce qui se passe là, dans ces sites-là, comme Oak Ridge et Hanford. Il y a, avec ce projet Manhattan, il y a des sauts à la fois scientifiques, technologiques, organisationnels et industriels qui se mettent en place. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la big science, comme le disent les historiens des sciences. C'est aussi le creuset d'un certain nombre d'innovations. Par exemple, une des innovations phares du projet, c'est ce qu'on appelle la stratégie parallèle, et qui est la suivante. Au début du projet, on n'a aucune certitude d'aboutir sur la création de l'arme en question. On est seulement à des hypothèses, et comme a dit quelqu'un dont je ne me souviens plus le nom, en 1938, tout ce qui concerne la physique nucléaire, en tout cas à destination militaire, tenait sur une table. C'est une image comme une autre, mais qui reflète bien ce que c'était à l'époque. Et donc la stratégie parallèle, en fait, ça a consisté à mener de pair la recherche, la construction des bâtiments d'expérimentation et la construction des bâtiments d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que la recherche aboutisse pour faire ensuite ce qu'on appelle un développement aujourd'hui. On a Groves, lui, a mené les trois de front. La recherche, le développement et le développement industriel. Et en plus, sur une grande échelle. Par exemple, pour prendre l'autre site, celui de Hanford, qui lui était dédié à la construction de 6 réacteurs destinés à produire en masse le plutonium dans les réacteurs, après leur séparation chimique, à Hanford, c'était plus grand que le site d'Oak Ridge. C'était 15 fois la surface de Paris. 15 fois la surface de Paris. Il y avait 1200 bâtiments à Hanford, 100 km de route, 250 km de voies ferrées, 55 000 employés et 900 bus, c'est-à-dire une flotte de bus plus importante que celle de Chicago à l'époque. Donc ça vous donne un peu une idée des dimensions du projet. Et j'en viens là